Vous écoutez RTL.
RTL, bien à la maison, il y a le printemps qui chante.
RTL.
Il y a la nature qui est tout en sueur. Dans les hectares, il y a du bonheur, c'est le printemps.
Jusqu'à 22h.
Au printemps, au printemps. Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps, printemps.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un soleil qui revient peu à peu, des envies de chanter, des plantes qui fleurissent, des animaux qui sortent de leur cachette. C'est le printemps et la nature se réveille dans la curiosité pour notre grand plaisir. Et on a eu la bonne idée d'inviter, tiens, qui donc ? Notre naturaliste préféré, Marc Giraud. Bonsoir, vous allez bien ?
C'est vrai que c'est une bonne idée, bonsoir à tous.
Vous allez bien ?
Mais je fais 3 livres par an exprès pour vous voir au moins 3 fois. Voilà.
Oui, mais on vous invite aussi en dehors de la sortie de ces livres. C'est dire ce qu'on a besoin de vous. Cette période délicieuse, elle dure combien de temps ? Pour savoir combien de temps va se passer.
Alors en gros, 20 mars, 20 juin, hein, ça c'est le calendrier, c'est les planètes. Voilà, parce que le printemps, c'est l'équinoxe de printemps. Mm-hmm. Ça vient de aequus, je parle latin aujourd'hui.
Allez-y.
Hein. Ah, oui, voilà, aequus, ça veut dire égal, aequus quoi, et nox, la nuit. Donc les nuits sont, vos nuits sont égales à vos jours. Voilà. D'accord. Et ça arrive 2 fois dans l'année, évidemment, une fois au printemps, une fois en automne.
En quelques mots, même si on va avoir le temps d'en parler, évidemment, dans toute cette interview, c'est quoi les caractéristiques du printemps ?
Alors pour moi, ça c'est très dégradé les changements de saison dans l'année. Finalement, je vois pas le printemps un jour précis. Il y a des petits signes. Déjà en janvier, il y a les personnages. Et pour moi, c'est déjà c'est déjà fini l'hiver. Après, il y a les crocus. Il y a 2-3 petites fleurs comme ça. Les arbres sont toujours dénudés parce que eux, ils se déshabillent l'hiver. Ils font le contraire de nous. Et puis là, ils commencent à remettre leurs fleurs, leurs feuilles. Ça y est, ça commence. Donc tout ça, c'est des petites choses. Et puis il y a les migrateurs qui commencent à arriver. J'ai entendu mes premiers pouillots véloces. C'est un oiseau qui fait
quoi, un pouillot véloce.
Voilà, en anglais ça s'appelle chiff-chaff. Donc c'est très simple.
Ça ressemble à quoi ?
C'est un petit oiseau verdâtre que personne ne remarque.
C'est le bruit qui est marrant.
Oui, tip-tap, comme ça, à peu près. Ouais.
Ouais, ouais. Et donc ça, c'est un signe.
Ah bah, c'est le premier migrateur qui arrive. D'accord. Donc voilà, et on l'entend partout. Hein. Il est très très commun. Et on ne le connaît pas. Il est aussi facile à reconnaître que le coucou, hein, donc, une fois qu'on l'a appris. Voilà. Donc tout ça, c'est des signes. Les hirondelles arrivent. Le coucou, là, ça ne va pas tarder.
Mais lui, voilà, dit bonjour en arrivant, ouais. Ce qui est quand même pratique.
Oui, c'est vrai.
Mais l'autre aussi, il dit psipsap, mais c'est sa façon de dire bonjour.
Voilà, il sait faire que ça. Il sait faire que ça.
C'est ça, psipsap. Alors, vous publiez, pas seulement pour nous, Marc Giraud, La nature au fil des saisons chez Alary Édition, et puis Fleurs et arbres au bord du chemin chez Delachaux et Niesplé.
Ça, c'est le tout dernier. Ouais.
Voilà, c'est le tout dernier. Alors forcément, quand on pense printemps, on pense saison des amours. C'est vrai pour beaucoup d'animaux.
Allons, bon, ça commence.
Ah bah oui, toujours, nous. Hein. On y va direct.
Bon.
Pas préliminaire. Hein.
Il y a des préliminaires chez les animaux ?
Ah oui, bah les paranuptiales, c'est des paranuptiales. Oui. Ah bah oui, il faut le temps. Enfin, il y en a, c'est assez brusque, hein, mais c'est rapide. Mais sinon, il faut qu'ils synchronisent leur cycle. Donc quand même, oui, les parades, ça sert à quelque chose.
Alors les oiseaux,
comment ils font pour séduire leurs partenaires ?
Bah déjà, à distance, ils chantent. Voilà. Enfin, les mâles chantent.
Oui.
Donc ça sert en même temps. On a entendu quelque chose, mais. Ça, c'est une mésange. Ça sert à délimiter le territoire et ça sert aussi à draguer, justement. Donc, ça veut dire, quand un mâle chante aux autres mâles, ça veut dire « je suis chez moi, t'as intérêt à voler à l'ombre ». Et quand c'est à une femelle, ça veut dire « viens par ici, je suis super beau, je chante super bien et il y a plein de bonnes bouffes chez moi ». Voilà.
Et la femelle ne lui répond pas ? Elle chante pas, la femelle ?
Les femelles écoutent. Et elle sélectionne, voilà.
Ouais. Sélection naturelle.
C'est une histoire de la vie, ça.
Oui.
Quelles sont les techniques, différentes techniques de drague des oiseaux ?
Alors, il y a d'abord le chant.
Ouais, le
voilà.
Chant.
Et ensuite, une fois qu'ils se voient, ils se montrent évidemment leur plus beau. Par exemple, les canards...
Mais pourquoi ils ont plusieurs tenues ? Ils ont...
Oui, ouais. Par exemple, en ce moment, ça je l'ai vu, même à Paris, les masques ont leur masque, les mouettes ont leur masque nuptial, elles ont la tête noire. C'est leur costume de séduction. Ça veut dire qu'on peut y aller, son mur sexuellement.
C'est la bonne
voilà.
Période.
Voilà. Et les canards, ils ont des plumes très très jolies, très brillantes, mais qui sont un peu cachées. Alors pour draguer, ils les montrent aux femelles en se grattant, en faisant semblant de se laver. Voilà, pour plaire aux filles, ils font semblant de se laver.
Et donc, ça fait ressortir leur plumes.
Voilà, voilà.
Leur
donc,
plume
c'est
plus brillantes.
Un rituel qu'on appelle rituel de toilettage. Oui. Mais voilà, et la femelle fait pareil et il se synchronise et paf.
Et le moineau, il fait quoi? Le moineau, il se prend pour un
genou. Il bétifie. Oui, si vous voyez des petits moineaux, le mâle, on le reconnaît parce qu'il a une bavette noire et blanche. Hein. On le reconnaît bien, les moineaux, c'est facile à reconnaître. Et il trempe des ailes en frétillant comme ça, et c'est exactement la mimique du petit oisillon qui demande la béquée. Donc il fait vraiment, il bétifie, c'est ah, petit bourg qui se fait vert, enfin, il est un peu bébête, quoi, voilà.
Il joue sur l'instinct maternel de la femelle.
Et ça plaît aux filles, voilà, c'est ça, donc il continue.
Et le printemps, c'est vraiment la période propice pour se reproduire, ou on se reproduit toute l'année chez les animaux?
Alors, se reproduire, oui, on peut se reproduire tout le temps, comme les blaireaux. Mais il y a les naissances qui arrivent au printemps, parce que le printemps, c'est là qu'il y a plus de nourriture et les petits arrivent au moment où il fait chaud et voilà, il faut qu'ils grandissent.
Alors, il y a les oiseaux qui se reproduisent et puis il y a aussi les lombriques à la même période. Pourquoi et comment font-ils pour se reproduire?
Ils font un 138, si vous voulez. C'est un double 69, c'est-à-dire qu'ils font la mortelle bêche.
On peut y aller, hein.
Ils sont en même temps mâles et femelles. Donc, ils font les deux en même temps, tête bêche. Voilà, donc c'est.
Vous pouvez nous faire un dessin, si vous voulez.
Je vous mets mes deux doigts l'un contre l'autre, vous comprenez.
Restez à l'autre bout de la table, ça ira pour ce soir.
Un ver, ça n'a pas de bras pour s'accrocher, donc c'est, voilà, ça a deux petites sortes de ventouses. Ouais. Voilà.
Bon, saviez-vous ça que le soleil déclenchait des grossesses chez les animaux? Ça vous calme un peu ou pas?
Oui,
c'est ce qu'on vous fait découvrir dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
Les filles sont jolies dès que le printemps est là.
Jusqu'à 22h.
La voilà, le printemps tout fleuri de lilas, qui réplique en dansant la java.
Je suis content, c'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Allez, on profite des chants d'oiseaux, des jolies fleurs. C'est le printemps dans la curiosité. Notre naturaliste Marc Giraud, qui est maintenant équipé d'un casque, nous emmène au cœur de cette nature. Tiens, on entend quoi là?
Une maison charbonnière. En deux notes, c'est facile.
Oui, c'est facile.
Après le Pouillot
Vélos. Et donc ça signifie plusieurs choses différentes ou pas, ça? Deux notes, ou c'est toujours. Ou c'est l'intensité qui.
C'est sa manière de. Oui, voilà, c'est l'intensité. Un mâle qui a bien mangé, qui est bien nourri, il va chanter plus puissamment. Et s'il chante plus longtemps, c'est aussi qu'il a mangé longtemps et que son territoire est bien, parce qu'il y a plein à manger dans son truc. Donc il a mangé très vite. Il n'a pas eu besoin de chasser, donc il a du temps pour chanter. Et les femelles, elles notent bien tout ça.
Il y a des cris d'alerte.
Un mec qui gagne bien sa vie.
Voilà, c'est ça, ouais.
Il y a de quoi manger.
Il y a des cris d'alerte aussi chez les oiseaux.
Oui, les cris d'alerte, en général, c'est très bref. Parce qu'il faut que ça aille très vite s'il y a du danger. C'est pas ce qu'on entend. Moi, je vais vous faire le cri d'alerte du geste, une sorte de « comme ça, voilà. Et si vous entendez ça, tout le monde s'en va, quoi.
Refaites-le.
Truc comme ça, c'est tout.
D'accord. Alors moi, je suis sûr que les auditeurs fidèles de la curiosité seront ravis, parce que je vais encore raconter l'histoire de mes pies.
Oui, Thomas.
Ils se foutent tous de moi, parce que j'ai un couple de pies devant mon bureau.
C'est vos voisins, en fait.
Voilà,
hein.
C'est mes voisins. Et bien, figurez-vous qu'ils ont dû abandonner leur nid, Marc Giraud, parce que un corbeau, alors vous m'avez dit que c'était peut-être
une
corneille,
plutôt.
Une corneille, oui. Pourquoi? Comment on les différencie?
La corneille, elle a le bec noir, et le corbeau freux, il a le bec gris
alors,
clair.
C'était une corneille,
plutôt à la campagne.
Bec noir, corneille, beaucoup plus grosse que les pieds, et ils se sont battus.
Ouais.
Mais comment ça se fait, ça? Vous êtes intervenu ou pas, Thomas?
Entre corvidés, ils sont sur la même niche, et ils sont rivaux, voilà. Et à Paris, avant, il y avait beaucoup de pies et très peu de corneilles, et maintenant, c'est quasiment le contraire. On voit de moins en moins de pies parce que les corneilles les ont chassées. Voilà. C'est des mouvements naturels. Voilà.
Mais du coup, j'ai plus les pies comme spectacle.
Et c'est beau,
le matin,
c'est beau.
Pour l'émission. Et c'est beau, c'est vrai que c'est
les corneilles aussi.
Mais vous allez voir que je suis romantique, parce que je pense à ces cadeaux que s'offrent les animaux pendant cette période nuptiale, et notamment l'araignée Pisor.
Oui, la Pisor admirable.
Qui offre quoi, sa belle, pour la
Alors, c'est dans nos jardins, c'est une petite, une assez grosse araignée qu'on voit partout et qui est commune. C'est la seule araignée d'Europe dont le mâle offre un cadeau de noces à sa femelle. Alors, il va chercher une petite mouche, il l'empaquette avec un rond de soie, et se balade avec son petit ballon, comme ça, tout blanc. Et s'il rencontre pas de femelle, il va manger son petit cadeau. Mais s'il en rencontre une, alors là, il fait sa petite parade, parce qu'il a intérêt à se faire connaître en tant que mâle, parce que souvent, les femelles sont assez voraces, elles mangent les mâles. Donc,
c'est pour la madouer, en fait,
Voilà, parce que pendant qu'elle consomme son cadeau, lui, il consomme leur noce. Voilà.
En fait, c'est un truc de sécurité.
C'est tout à fait, oui. Il y a même une autre espèce qui fait un paquet, mais il est vide. mais le temps que la femelle s'en rende compte, il a fait son affaire.
Balancer les radins, c'est qui? C'est quelle autre espèce?
C'est les mufles ou les feignants.
Heureusement, vous n'avez pas entendu ma vanne. Si je dis, ça vous aurait fait réagir.
Ah bah j'écouterai le podcast alors, parce que je
disais que la femelle était un peu blonde.
Ah oui, d'accord.
Celle qui ne comprenait pas qu'il n'y avait rien.
Bon, à part d'un blond, ça va, ça ne me gêne pas trop.
Bon, allez, on reprend un peu de concentration et de sérieux avec Marc Giraud. On va parler un peu des plantes, de la végétation. Alors, si on a la chance d'avoir un jardin, c'est quoi une végétation un peu sauvage? C'est quoi la règle d'or, là, en ce moment, à quelques jours du printemps?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça pousse, là, ça pousse, ouais. Ça y est.
Il faut laisser pousser.
Ah oui, pour avoir un beau jardin.
Ouais.
Ah oui, alors là, ça va être compliqué. Prenez des notes. Voilà, comment faire un beau jardin. Vous ne faites rien. Voilà.
Moi, c'est ce que je fais chez moi. Voilà. Vous l'avez déjà dit.
Ça fait un peu peur aux voisines, qu'on peur des pissenlits, des boutons d'or, de tout ça. Mais ça, voilà. Enfin, de temps en temps, j'enlève des ronces pour qu'il y ait des chemins. Mais sinon, j'ai toutes les fleurs de printemps. Je comprends pas mes voisins qui tondent dès qu'il y a une pâquerette. Les fleurs sauvages, c'est quand même beau. Ça attire les insectes. C'est un écosystème. Mais laissez les herbes folle, c'est génial. Il y a un botaniste qui disait, une mauvaise herbe, c'est une herbe dont on n'a pas encore découvert les vertus. Voilà, et donc laisser les pissenlits, c'est magnifique, ça ne demande aucun travail.
Et les haies qu'on voit moins peut-être d'ailleurs.
Ah bah parce on que les a, on, le remembrement ça fait des dégâts. Hein. Ouais. Plusieurs fois le trajet Terre Lune qu'on a déjà enlevé en France.
Pourquoi c'est important les haies dans un écosystème?
Ça protège. C'était à l'époque où les paysans vivaient avec le rythme de la nature, respectaient la nature. Ouais. Ça fait du bien à tout le monde là. Et ça protège du vent, ça protège de la pluie et de la sécheresse parce que les racines d'abord fixent le sol et ensuite retiennent l'eau et la restituent en temps de sécheresse. Donc ça empêche les inondations, ça fait éponge à pollution, enfin ça sert à tout.
Et puis il y a des animaux aussi qui vivent dans ces haies.
Ah bah oui, c'est alors il y en a à tous
c'est
les étages.
Quoi, c'est...
Ah bah oui, bien sûr.
C'est comme un immeuble. Alors il y a quoi? Absolument. Quoi dans les étages?
Bah alors en bas, il y a les rampants, il y a les orvets qui sont des lézards sans pattes, les hérissons, tout ça, puis de plus en plus il y a des petits oiseaux et puis il y a tout en haut, il y a les gros oiseaux, les chanteurs, etc. Enfin il y a vraiment beaucoup de monde, ouais.
On apprend dans votre livre La nature au fil des saisons, Marc Giraud, publié chez Alary Édition, que les petits animaux sauvages naissent en majorité au printemps. Pour quelles raisons?
Parce que c'est l'époque où il y a de la nourriture, tout simplement. Il fait chaud. Ils sont pas encore armés pour affronter un hiver, donc ils ont intérêt à naître à cette période-là.
Mais avec le soleil aussi, qui a un impact sur la naissance des bébés. Un impact particulier, lequel?
Oui, on est sur une grosse boule qui tourne avec d'autres boules qui tournent, dont le soleil qui fait plus ou moins de lumière. C'est ça l'équinoxe, hein, d'ailleurs. Et quelquefois, les blaireaux, par exemple, ça couple à peu près toute l'année. Ils sont un peu comme nous. À l'envers, je dirais qu'on s'accoupe comme des blaireaux. Donc à peu près tout le temps.
Je parlais pour vous.
Hein. Bon les gars, je vais pas vous séparer.
Allez-y.
Mais en revanche, l'embryon ne se développe que l'hiver, de façon à pouvoir naître en printemps. Donc il y a un développement différé. Voilà, quelle que soit la date de l'accouplement, la naissance sera toujours au printemps.
Alors c'était pas hier, c'était mardi. On parlait des papillons et moi j'ai eu la surprise de découvrir que le papillon naissait adulte en fait. Quand il sort de son cocon, il est à l'âge adulte.
Ah oui, après avoir été larve.
Voilà, c'est ça. Après avoir été larve, je pensais que c'était encore un bébé. Non,
un papillon, ça veut dire que tous les insectes volants sont des adultes.
D'accord.
Dès que ça vole, ça veut dire que c'est mûr sexuellement. Et d'ailleurs, il y en a qui sont là que pour la reproduction, qui mangent même plus. Mmh. Voilà. Et qui vivent pas très longtemps.
Les plantes ont-elles de la mémoire? Drôle de question. Réponse passionnante à suivre sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
On laisse nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin.
Jusqu'à 22h, RTL.
Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les premiers rayons du soleil dardent, les plantes et les animaux en profitent pour s'ébrouer, se réveiller tout doucement. Et c'est notre naturaliste préféré, Marc Giraud, qui nous emmène dans son univers au milieu des champs et des forêts. Ça fait du bien. Et puis au milieu de nos jardins aussi et des villes, parce que la nature, on ne peut pas l'éliminer finalement, même si on essaye parfois de la repousser aux frontières. Les plantes, Marc Giraud, elles vivent au rythme des saisons. Que signifie l'équinoxe de printemps pour elles ?
Alors, il ne faut pas que confondre les deux équinoxes, justement, parce que vous parliez de mémoire. Elles ont intérêt à avoir de la mémoire, parce que les deux équinoxes, printemps et automne, c'est les mêmes conditions de lumière, de chaleur. Si elles ne font pas gaffe, elles pourraient pousser en automne et se retrouver en plein hiver.
Alors, comment elles font ?
Donc, il faut qu'elles aient la mémoire de l'hiver, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un coup de froid qui leur rappelle que ça y est, ça, c'est déclencheur. Et donc, elles ont vraiment de la mémoire. Elles stockent les informations, elles les restituent. Et il y a certaines graines, par exemple, et qu'il faut mettre au frigo pour qu'elles poussent bien. Ou les arbres fruitiers, quand il n'y a pas eu vraiment d'hiver, ils poussent n'importe comment. Et s'il y a un coup de froid en plein printemps, justement, là, c'est pas bon. Donc, le réchauffement climatique, voilà, il revient là. Parce qu'on dit réchauffement, mais c'est une moyenne. C'est aussi des bouleversements climatiques avec des coups de très, très froids. Ce qui fait dire à Trump que ça n'existe pas, mais si, ça existe.
Ouais.
Donc la mémoire est importante.
Est-ce qu'elles ont conscience d'elles-mêmes, les plantes ?
Oui, elles ont une conscience elles ont la proprioception, c'est un sens qu'on a aussi, sans lequel on tituberait. C'est le sens de où sont nos organes dans l'espace, où est notre corps, où est notre équilibre. Par nous, exemple, on se casserait la figure et elle aussi.
Les sportifs de haut niveau, on se sent particulièrement développé, la capacité de se
mouvoir
dans l'espace et de se mettre en situation par rapport à un objet,
parce qu'ils s'entraînent.
Oui,
et les plantes, c'est pareil. Si un arbre pousse de travers, il s'en aperçoit, il se redresse. Et après une grosse tempête, par exemple, une fleur peut être penchée, elle va se redresser. Absolument comme un chat qui se remet sur ses pattes quand il tombe, quoi. C'est ça la proprioception.
Et comment est-ce qu'elles perçoivent la lumière d'une certaine façon ?
Non seulement elles la perçoivent, mais elles la boivent, elles s'en nourrissent. C'est très important, la lumière, la photosynthèse, c'est la base de la vie sur Terre. Les plantes sont capables à partir de la lumière du soleil, de faire des sucres et de faire du vivant. À partir du non-vivant, elles font du vivant.
Ouais.
Sans elles, il n'y aurait pas de nourriture, il n'y aurait pas d'animaux, il n'y aurait pas de vie. C'est très, très important.
C'est pour ça qu'elles poussent pour aller vers la lumière ?
Oui. Elles ont des tas de sens qui font qu'elles savent où est l'ombre, elles savent si l'ombre qui se porte sur elles est d'un rocher ou d'une autre plante. Elles ont des sens très très fins, c'est des sens de leur survie. C'est incroyable, les plantes, comme elles ont des sens, elles ont une vingtaine de sens, elles ont 700 capteurs différents, c'est des sortes d'animaux, presque.
Oui, vous expliquez dans votre nouveau livre « Fleurs et arbres en bord de chemin » qui est publié aux éditions de Lachaud et Nestlé, Marc Giraud, que ces végétaux ressentent des choses. Qu'est-ce qu'ils sont capables de percevoir en plus de la lumière ?
Elles ont le sens du toucher.
Ouais.
Elles nous voient, elles ont presque tous les sens de nous. Elles voient sans yeux, elles ont le sens du toucher sans nerfs.
Comment ça, le sens du toucher ?
Oui, vous savez, les plantes grimpantes avec des vrilles, quand on les filme au ralenti, on voit que la vrille, c'est une sorte de tige qui se balade dans l'espace comme un lasso. Et dès qu'il y a un contact, elle s'enroule autour. Et on s'est aperçu que le bout de ces vrilles était 10 fois plus sensible que le bout de nos doigts, qui sont les endroits les plus sensibles de notre corps. Enfin, parmi les endroits les plus sensibles. Donc c'est très très sensible au toucher.
Et donc, ça lui permet de trouver le bon endroit pour s'accrocher.
Le bon support.
D'accord. Et alors, il y a aussi des plantes qui sont sensibles aux odeurs. Par exemple,
oui.
La cuscute. Alors, je ne savais pas que la cuscute existait. C'est quoi la cuscute ?
Alors, justement, c'est une plante à vrille. C'est une plante parasite qui va s'accrocher sur d'autres. Et la cuscute a du flair. C'est-à-dire que non seulement elle a le sens du toucher, mais elle sort une vrille comme ça en l'air. Et elle cherche, par exemple, si on met un plant de tomate sain et un plant de tomate malade, elle va se diriger vers le plant de tomate sain pour le vampiriser, parce que c'est un parasite. Et elle est capable de faire demi-tour si le support n'est pas le bon.
Et donc, parce que le plant de tomate sain, elle va y trouver plus de matière à...
C'est une parasite, donc elle va manger
les... vivante pour
absolument.
La manger.
Il y a aussi des plantes, Marc Giraud, qui ont, on va dire, le rythme dans la peau.
Oui, la musique, il y a eu des mauvaises expériences avec la musique. On a un peu fantasmé sur les différences de musique, de rock, etc.
Oui, les plantes qui se trémoussent sur des disques.
Voilà, mais il y en a qui elles sont sensibles aux vibrations. Mmh. Alors, il y a une expérience qui était ratée parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'elle poussait plus quand il y avait de la musique. C'était la chaleur des baffles, des haut-parleurs, qui les faisait pousser. Donc, il y a eu des publications qui n'étaient pas très sérieuses.
Oui.
Mais n'empêche qu'elles entendent, elles sentent, des plants de maïs vont vers les vibrations, elles sentent. Et il y a une plante qui danse à la musique.
Desmodium girans, c'est ça ?
Voilà, c'est pas chez nous, c'est plutôt en Inde.
Ouais.
Et plus on fait de musique, et plus elle danse à cette musique. Mais c'est pas parce que c'est de la musique, c'est parce que c'est des vibrations.
Des vibrations,
mais
ouais.
C'est quand même impressionnant.
Quelle est la première fleur, ou en tout cas l'une des premières fleurs qu'on peut apercevoir dans nos jardins quand le printemps arrive ?
Alors, chez moi, je vous ai dit, c'est les personnages, oui. les
crocus. Moi, je pensais à la pâquerette.
Ah oui, la pâquerette, bien sûr. Oui, la pâquerette, elle vient très vite, le pissenlit, tout ça, ça va très vite.
Elle est très douée, elle aussi, elle peut faire la différence entre le jour et la nuit.
Ah bah oui, ça se repose, ça se ferme. Et les pissenlits, pareil, ils suivent le soleil. Donc, elles perçoivent la lumière, elles perçoivent tout. Elles se ferment, elles se reposent.
Mais comment ça, elles se reposent? Elles se reposent de quoi?
La nuit, elles se reposent. Elles sont actives. Donc, elles ont, comme toute activité, de temps en temps, il faut récupérer.
Mais qu'est-ce qu'elles
donc,
font?
Donc, vous voyez une tulipe qui s'ouvre. Ouais. Et tous les soirs, elles se referment.
Mais attendez, elle est active, la pâquerette. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression d'être les seuls à bosser. Mais la pâquerette, elle fait quoi de sa journée?
Eh bien, elle fait sa photosynthèse à la lumière. Et comme elle voit les couleurs. Les plantes, si vous vous approchez d'une plante, elle voit si votre t-shirt est rouge ou bleu, par exemple. Elle voit plusieurs sortes de couleurs. Elle voit le rouge lointain, qui est le rouge du tomber de soleil. Et ouais. C'est ça le signal du repos. Et elle voit le rouge de l'aube, qui est le signal de l'éveil. Elle voit aussi le bleu, comme nous, qui règle leur horloge biologique.
Donc c'est pas la température, c'est la couleur
qui les
incite à refermer, à se rouvrir.
Oui, c'est les deux. Et pour s'ouvrir et se fermer, elles ont des mécanismes. Il y a plus ou moins d'eau dans les cellules des pétales qui font qu'ils se dirigent vers l'extérieur ou vers l'intérieur. C'est bien fait, hein.
Le retour des oiseaux migrateurs, la guerre des bourgeons et le soda de fleurs de pissenlit. Tout ça, c'est dans un instant dans la curiosité sur RTL.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est bientôt le printemps et donc notre naturaliste préféré Marc Giraud est notre invité sur RTL dans la curiosité. On parle des animaux, on parle des plantes et évidemment tout ce petit monde vit souvent en symbiose. Par exemple, les plantes, comment font-elles pour attirer les insectes puisqu'elles ont besoin des insectes pour être pollinisées?
C'est ça qui est bizarre, ça dure depuis 100 millions d'années. Quand les fleurs draguent, elles ne draguent pas d'autres fleurs, elles draguent des animaux. Parce qu'elles passent par les animaux pour se reproduire. C'est étonnant, quoi. C'est vraiment une coévolution depuis de nombreuses années. Ouais. Elles ont mis au point des systèmes visuels étonnants. Elles ont des indications de pollen, par exemple, qu'on voit pas parce que nous, on voit pas les mêmes couleurs que les insectes. Presque des flèches pour diriger les insectes vers le centre. Et quand le bistrot est fermé, elle change de couleur. Par exemple, la feuille du marronnier les fleurs du marronnier qui est jaune, quand il y a plein de nectar, tous les insectes y vont, puis elles passent au orange. Et ensuite, comme un feu tricolore, quand elle est au rouge, ça veut dire que le bistrot est fermé. Et ça se voit. C'est moi, je les ai pris en photo dans le livre, avant et après, parce que j'ai voulu montrer justement que les plantes vivent, qu'elles changent de couleur, qu'elles s'ouvrent, qu'elles se ferment, etc. Les montrer en train de bouger. Donc on voit vraiment ces fleurs qui changent de couleur.
Le livre, c'est Fleurs et arbres en bord de chemin, avec des photographies signées Fabrice
Caez.
Ouais. Caez, voilà, j'étais sûr que j'allais me tromper. Et Marc Giraud, vous avez aussi signé
vous en voudra pas.
De la Chaux et de Nestlé.
Le printemps, Marc Giraud, est annoncé par le retour des oiseaux migrateurs, notamment des hirondelles que vous avez sur votre très jolie chemise. Pourquoi ces oiseaux migrateurs reviennent à cette période?
Alors, c'est là qu'ils sont nés, c'est là qu'ils reviennent.
C'est la maison.
Voilà, oui. Et ils vont dans le sud parce qu'il y a plein de nourriture. Et ils vont dans le nord parce qu'il y a plein de nourriture, mais en hiver il y en a plus, donc ils reviennent dans le sud. Donc c'est beaucoup une histoire de nourriture, beaucoup plus que de chaleur.
Avec un GPS intégré, j'imagine, parce que pour trouver leur route, c'est pas évident.
Comment ils trouvent leur chemin?
Il y a plein d'explications multiples. Par exemple, sur les pigeons, on a trouvé de la magnétite. C'est ce qu'il y a dans les boussoles. Ils sont sensibles au magnétisme terrestre. Ils ont des repères visuels qui sont maintenant quelquefois les autoroutes, les TGV, les machins. Donc ils se repèrent là-dessus aussi. Ils ont plein de repères, ils ont vraiment un GPS. Ouais.
Le printemps, c'est aussi la sortie d'hibernation de certains animaux.
Le Thomas Hugues,
par exemple. J'aime bien quand vous chantez comme
ça. Oui, j'ai la voix un peu grave là.
C'est un batracien, c'est une grenouille.
Oui. Je pensais illustrer un crapaud, mais je me suis trompée. C'est quoi la différence entre un crapaud et une grenouille?
Alors, la grenouille fait ce genre de coassement très très grave, alors qu'un crapaud, c'est une toute petite voix, c'est une sorte de... Comme ça. En ce moment, je les ramasse. Je peux vous raconter ça. Quand vous attrapez un mâle, il fait comme ça. Parce que les mâles, quand ils sortent d'hibernation, c'est des vrais obsédés sexuels. Ils pensent qu'à une chose, s'accoupler. Ils ne mangent pas. Et ils accrochent tout ce qui bouge. Donc, mes doigts, quand je les ramasse, mes bottes, le museau d'une carpe, on a vu. Enfin, voilà, ils accrochent. Donc, s'ils accrochent un autre mâle, l'autre fait... comme ça, ça veut dire, eh, dis donc, je ne suis pas ce que tu crois. Voilà. Donc quand on les attrape, ils font ça. Ouais. Quand ils accrochent une femelle, eh ben, c'est un réflexe qui va durer de 8 à 15 jours quand même. Hein.
Est-ce qu'ils sont en danger dans cette période de printemps, les crapauds ?
Alors, si je les ramasse, justement, c'est que dans leur route de migration pour aller dans, se reproduire dans les mares, des fois, il y a des routes voilà, qui sillonnent leur voie de migration. Et là, c'est la catastrophe. Les voitures font du crapaud planique. C'est épouvantable. Mmh. C'est de la bouillie de crapauds sur les routes. Alors, moi, je les ramasse. Oui, oui, bien sûr. Donc, avec mon association LASPAS, ASPAS, on a un guide à télécharger gratuitement avec tous les conseils, parce que là, je ne vais pas pouvoir tout vous dire. Donc,
si on trouve un animal parfois blessé, par exemple.
Alors, ça, c'est autre chose.
Oui, allez-y, pardon.
Pour les crapauds, comme c'est en ce moment, c'est juste au printemps, les soirs de printemps, les crapauds se font écraser. Donc, déjà, les automobilistes, levez le pied quand vous voyez des panneaux et quand vous voyez des gens comme moi avec des gilets fluo et des torches, c'est qu'on est en train de ramasser. Ça, c'est le premier truc. Les ramasser, leur faire traverser la route. Ouais. Voilà. Le deuxième truc, c'est de faire ce qu'on appelle des crapaudromes, vous savez, des barrières avec des seaux, pour que les crapauds tombent dedans et traversent pas la route. C'est assez compliqué, on fait ça aussi. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Regardez le site de LASPAS, voilà.
Seulement sur les crapauds, vos conseils, vous en donnez sur d'autres animaux aussi?
Oui, mais parce que les crapauds, c'est en ce moment et c'est très spectaculaire parce que c'est tous en même temps. Alors qu'il y en a d'autres, ils migrent à droite, à gauche, bon, ça se voit moins. Alors les animaux blessés, ça, c'est de temps en temps. On peut tomber sur un oiseau tombé du nid, on peut tomber sur des animaux comme ça, qui n'ont pas forcément besoin de nous. Ça, c'est très important. Mm-hmm. Parce que quelquefois, les gens m'amènent un bébé chouette en disant, oh, il était tout seul. Mais non, c'est juste que comme les parents l'ont vu, l'humain, ils ont eu peur, ils ont attendu. Et il fallait le laisser tranquille. Il faut vraiment être sûr que l'animal est blessé avant de le prendre. Si on le prend, faut se méfier parce que ça a des griffes, des becs, ça se défend. Et ensuite, faut lui éviter le stress. Donc, faut le mettre sous une couverture, dans une boîte en carton pour un oiseau, dans une panière à chat pour un mammifère parce que c'est plus solide, et l'amener chez un professionnel, un vétérinaire.
Et si on trouve un petit oiseau tombé du nid, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, ça dépend de s'il est capable de voler, faut le laisser ou le remettre sur une branche s'il y a des chats. Le problème, c'est les chats. Ouais. J'adore les chats, mais c'est quand même une calamité. Ouais. Une adorable calamité. S'il est vraiment tout petit, on le remet dans le lit. Et s'il faut le nourrir, c'est compliqué parce que c'est tous les quarts d'heure, jour et nuit. Donc, vraiment faire appel
comme
à un centre de soins.
Plus qu'un nourrisson.
Je vois que ça sent le vécu.
On apprend aussi, Marc Giraud, dans votre livre Fleurs et arbres en bord de chemin, qui est publié aux éditions Delacho et Nestlé, qu'il existe une guerre des bourgeons.
Allons bon.
Mais c'est quoi cette guerre qu'on ignorait ?
Ben, y a des dominants et des dominés, figurez-vous, chez les bourgeons, exactement comme chez les loups. Il y a ceux qui peuvent se reproduire et les autres qui se la ferment. Et ça marche aussi avec des phéromones inhibitrices, exactement comme les loups. Il y a le couple alpha qui se reproduit et les autres n'ont pas le droit. Et le bourgeon apical, c'est celui du bout, c'est celui qui se reproduit. Donc quand il y a une grosse dominance de ces bourgeons, ça fait des arbres très droits. Les conifères, par exemple, ça fait toute la structure de l'arbre vient de cette hiérarchie des bourgeons. Quand elle est très forte, ça fait des arbres très droits en cône, c'est les conifères. Et quand c'est les feuillus, c'est un petit peu plus laxiste, donc ça va un peu dans tous les sens. Et c'est vraiment, c'est l'ordre des végétaux.
Alors Marc Giraud, si on veut se balader dans la nature avec vous, il y a plein de livres à découvrir en bibliothèque ou en librairie, c'est encore mieux. Et notamment le dernier, Fleurs et arbres en bord de chemin. Et puis on vous retrouve demain à la bonne heure, à 11h, chez Stéphane Bern. Vous allez parler de quoi ?
Des chants des oiseaux, justement, c'est vraiment le printemps.
Bah, vous avez pu répéter
grâce à nous. Ils ont le droit au
Pouillot Vélos. Grâce à André Facetta, notre réalisateur. Merci également à Coralie Lutinier, notre programmatrice qui était à nos côtés ce soir.
Vous écoutez RTL.